Il est un psaume qui est très créatif dans la Bible. Il a été fait en format acrostiche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce genre de poème. C'est quand on prend par exemple la lettre de notre prénom, on l'écrit dans l'horizontale, dans la verticale, pardon. Et après, dans l'horizontale, chaque lettre, on écrit un vers pour faire un poème. Et il y a un psaume qui a été fait comme ça, en acrostiche, justement. Bravo! Mais il n'a pas utilisé le prénom de la fille qu'il aimait ou son propre prénom. Il a utilisé les lettres de l'alphabet pour faire ce poème en acrostiche. Ouais, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Donc si avec chaque lettre, on écrivait seulement une ligne, ça serait déjà un poème assez grand avec 22 lignes. Mais lui, il s'est pas arrêté là. Pour chaque lettre, il a écrit toute une strophe. Donc pour la lettre A de l'alphabet hébreu, il a écrit toute une strophe. Après pour la lettre B, toute une strophe. Donc vous pouvez imaginer la taille de ce psaume. Et en effet, c'est le psaume et le chapitre le plus long de la Bible avec 176 versets. Mais le plus intéressant, c'est sur quoi il parle dans ce psaume. Qu'est-ce qu'il voulait exprimer avec tous ces mots, un poème si grand comme celui-là? Dans la Bible, il y a des poèmes où un homme écrit pour une femme. Il y en a ça dans la Bible. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur l'amour entre un homme et une femme, mais ce n'est pas le but de ce poème-là. Dans la Bible, il y a aussi des poèmes pour louer Dieu, ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait. Il y aurait aussi beaucoup à dire à propos de ça, mais ce n'est pas le sujet de ce poème non plus. Dans la Bible, il y a aussi des poèmes prières, des poèmes pour prier à Dieu, où l'auteur dit comment il se sent et qu'il demande des choses à Dieu. Ça pourrait être aussi un poème sur ça, mais ce n'est pas le cas de ce poème non plus. L'objectif principal de ce poème, c'est exprimer le plaisir que l'auteur a de lire sa Bible. Voilà. Le chapitre le plus long de la Bible est sur le plaisir d'apprendre avec elle, de pratiquer ce qu'elle dit. 176 versets pour dire ça. Et l'auteur commence comme ça. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. La joie. En fait, c'est la joie, le sentiment qui va marquer tout ce chapitre. Vous avez déjà entendu, ou peut-être vous avez déjà eu l'impression que la religion, c'est accablant, c'est pesant, c'est tout plein de règles à suivre. Eh bien, pas pour lui alors. Ce n'est pas l'expérience que lui, il a eue en lisant la Bible. Lui, il considère heureux celui qui cherche Dieu au travers de la Bible. Celui qui garde ce qu'il a appris. Celui qui apprend et qui met en pratique ce qu'il découvre. Celui qui marche suivant la loi de l'Éternel. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Bible? Pourquoi pas le Coran ou l'art du bonheur de Confucius? C'est aussi des écrits de sagesse. Pour devenir membre de l'armée du salut, on signe un article de foi et on dit que nous croyons que les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été données par l'inspiration de Dieu et qui est elle seule constitue la règle divine de la foi et de la vie chrétienne. On affirme ça, que c'est que la Bible qui constitue la règle divine de foi et de vie chrétienne. Mais pourquoi la Bible? D'où vient l'autorité de la Bible? Ça, c'est important, parce que baser sa vie sur quelque chose qui n'a pas vraiment une autorité, c'est pas très efficace. Mais pour nous, les chrétiens, l'autorité principale vient de Jésus. Jésus, il avait seulement une partie de notre Bible, il n'avait pas toute la Bible qu'on a. Il avait juste la partie avant qu'il soit né, quoi. L'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc c'était seulement les trois parties qu'on a vues la semaine passée avec Daniel. C'était la loi, c'était les prophètes et c'était les autres écrits. C'est ça qui avait été écrit à l'époque où Jésus est venu sur terre. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, justement. Et Jésus, il a utilisé ces passages-là pour sa vie. Il a utilisé la Bible pour sa propre vie de foi, comme par exemple quand il est tenté et il cite des passages de la Bible pour se défendre et pour ne pas pécher. Il a utilisé la Bible pour enseigner, comme quand il prend un des passages de l'Ancien Testament pour dire quel est le commandement le plus important pour tout être humain. Il reprend un passage de la Bible pour expliquer. Et il l'a utilisé pour prouver aussi qui il était. Il a pris des textes de la Bible pour prouver qui il était. Deux de ces passages remarquables, c'est une fois quand il était en discussion avec les religieux de l'époque, et il leur dit comme ça: « Alors comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur ?» Donc, ça, c'est toute une réponse qu'il donne à un leader religieux, mais je voudrais juste reprendre qu'il croyait que David était inspiré par l'Esprit de Dieu pour écrire. Jésus, il croyait en ça. Il croyait que David avait été inspiré par l'Esprit de Dieu pour écrire des psaumes, par exemple. Il ne considérait pas un livre comme les autres, Jésus. Il considérait que c'était guidé par Dieu lui-même. Un autre passage, après sa résurrection, il rencontre deux des disciples qui avaient de la peine à croire pourquoi, si Jésus était vraiment Dieu, pourquoi il a dû mourir, pourquoi il a dû souffrir toutes ces choses. Et puis il les rencontre dans un chemin, deux de ses disciples, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Et puis, alors, il croyait tellement à l'inspiration de la Bible qu'il a dit, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Donc Jésus a expliqué dans toute la Bible comme toute la Bible pointait vers lui. Toute la Bible de l'Ancien Testament disait, regarde, c'est Jésus. Il devrait souffrir, il devait ressusciter aussi des morts. Puis Jésus a pris ça pour prouver qui il était. Et finalement, il a dit aussi ça. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Voilà. Ça, c'était Jésus. Et maintenant, quand on retourne à notre psaume, le psaume 119, on voit que l'auteur, lui aussi, il avait la certitude que c'est Dieu qui se révèle dans la Bible. Il a dit, « Toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Tu as révélé tes exigences. » Qu'il croyait que la Bible était révélée par Dieu. C'est pour ça qu'elle avait son autorité. Donc, si tu te demandes pourquoi on peut se baser sur la Bible pour notre foi, je dirais que c'est d'abord parce que Jésus se basait sur elle, lui-même. Donc, sur lui, on peut faire confiance. Et si Jésus se basait sur elle, c'est parce que Dieu s'est révélé et il continue à se révéler à travers la Bible. C'est pour ça qu'on peut se baser sur elle. Ce n'est pas un livre comme les autres. Et alors, l'auteur des psaumes, il continue et il dit, comment, donc ça c'est important pour le Yep aussi, comment quand tu es jeune, avoir une vie pure? Ce qu'il veut savoir, l'auteur, c'est quel est le modèle à suivre? Récemment, j'ai parlé avec une amie au Brésil qui a décidé de quitter l'église et je lui ai écrit, en lui demandant, mais qu'est-ce qui va être le modèle pour ta vie? Sur quoi tu vas la baser? Sur ton propre cœur? Ça nous trempe facilement notre cœur. Juste ce qui me fait bien, ce qui me fait me sentir bien, c'est aussi dangereux. La philosophie, il y a des bonnes choses, mais il y a des choses contradictoires aussi. Tu vas être perdu à un moment donné. Qu'est-ce qui va définir quel sera le but de ta vie? Je lui ai demandé. Quel va être le modèle pour pouvoir prendre des bonnes décisions? Il y a beaucoup de modèles disponibles. Il y a l'exemple de nos parents, il y a l'exemple d'autres membres de notre famille, il y a la manière de faire nos amis, il y a la vie des célébrités qui peuvent être des modèles, il y a le modèle dans des héros, dans les histoires de fiction, dans les films. Mais la question de cet auteur, c'est qu'est-ce qui peut faire avoir une vie qui apporte du plaisir à Dieu? C'est ça qu'il voulait savoir. C'est ça la question. C'est pas comment vivre une vie qui me ferait du plaisir. Lui, il veut savoir comment c'est avoir une vie pure, avoir une vie qui fait plaisir à Dieu. C'est ça sa question. Et il donne la réponse. c'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. J'aimerais donner un exemple comment ça fonctionne dans la pratique. Ça. Quand j'étais au Brésil, les dernières années, j'ai étudié longtemps au conservatoire de Recife, au Brésil. Et puis, les dernières années, j'avais fini ma formation classique. Et puis, après quelques années sans étudier, j'ai décidé que je voulais essayer aussi de la musique populaire brésilienne. Ça s'appelait un cours de MPB, mais il y avait aussi d'autres sujets, le jazz et de la musique moderne. Mais j'ai pas pu terminer parce qu'après on est venu en Suisse. Mais j'ai fait 2 ou 3 semestres d'études. Et puis dans une des classes, c'était pour jouer avec d'autres musiciens. Et le professeur a choisi de prendre les morceaux de Moacir Santos. C'est un auteur brésilien. Et on a commencé à jouer. C'était un style très très différent de tout ce qu'il y avait dans la musique populaire brésilienne même, et même du jazz différent de tout ça. Puis tout d'un coup, quelques titres m'ont interpellé quand même, parce que il y avait un titre qui c'était « O Dudua », ça veut rien dire en portugais, et ça ressemble quand même à un nom de divinité. Ou bien, il y avait « C'est moi, Luane », et puis ça semblait aussi un nom d'un esprit, d'une divinité, des religions qu'il y a au Brésil. Ou un autre qui s'appelait « Mère Iracema », que c'est aussi une déesse des esprits. Après, il y avait des autres titres qui n'avaient rien, aucun nom qui semblait bizarre, comme April Child ou Chose numéro 3 ou Amphibius. Mais je suis allé voir les paroles des chansons, parce qu'on jouait juste les instruments, il n'y avait pas de paroles. Je suis allé voir les paroles, puis effectivement, c'était la louange aux esprits de la terre. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Donc j'ai questionné, j'ai prié sur ça, et puis je me rappelle encore, j'en étais pour l'anniversaire de Clarissa dans une pizzeria, puis j'en ai parlé à un de mes amis du poste, un ami chrétien, et puis il dit « Ouais, j'ai pas de réponse, mais ça m'est venu ce verset, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » J'ai juste ressenti ce verset, je veux le partager. Puis alors j'ai pris le passage complet à la maison pour le lire. C'est dans Corinthiens 10, ce verset, et donc je l'ai pris. Et puis là, dans ce passage, c'était la grande question s'il pouvait manger ou non la nourriture offerte aux autres dieux. Donc il y avait d'autres religions, puis des fois c'était sacrifié dans des temples, puis les chrétiens voulaient savoir est-ce qu'on ose manger ou est-ce qu'on n'ose pas manger cette viande qui a été sacrifiée aux idoles. Et ils discutent comme ça, Paul. Quand on mange la Sainte Cène, on est en partage avec Dieu. Donc si on mange une viande sacrifiée aux idoles, on est aussi en partage avec des démons. Donc l'idéal, ce serait ne pas manger. Mais à la fin, Paul donne ce conseil. Mangez de tout ce qu'il y a dans le marché sans se poser de questions. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande sacrifiée aux idoles », alors ne mangez pas. Donc ne cherchez pas à savoir. Mais si vous savez, ne le faites pas, bien sûr. Alors j'avais ma réponse. Si je ne savais pas que c'était des esprits, je pouvais jouer sans autre. Maintenant, sachant que c'était offerte à des esprits, c'était mieux ne pas le jouer, selon la Bible. Bon, après, c'était la difficulté de dire au professeur que je n'avais pas envie de jouer ça au concert à la fin du semestre. J'ai pris tout mon courage, j'ai attendu la fin de la classe, j'ai dit « écoute, je suis chrétien » et puis j'ai découvert que ces 3 musiques surtout, ce sont des musiques de louange aux esprits de la nature et je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous serez d'accord que je ne joue pas au concert ? Et puis il était tout à fait d'accord depuis le début, il a dit « jouez les autres alors ». Vous n'avez pas besoin de répéter avec nous ces morceaux-là, répétez les autres. Puis à la fin, vous jouez seulement les morceaux que vous vous sentez à l'aise. J'ai beaucoup apprécié sa réponse, même si je m'attendais à plus de résistance quand même. Et c'est pour ça que le psalmiste, il a dit « Merci Seigneur de m'enseigner ta volonté ». Ça apporte la direction pour des moments cruciaux comme ceux-là. on ne sait pas comment agir, on ne sait pas quelle décision prendre. C'est une question qu'on doit se poser régulièrement dans notre vie en lisant la Bible et dans les situations de tous les jours. Seigneur, quelle est ta volonté? Enseigne-moi ta volonté et je vais la suivre, coûte ce que coûte. Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. C'est vrai que c'est une aventure de suivre les ordres de la Bible et c'est une richesse aussi incroyable. Encore une fois, il ne dit pas que c'est un fardeau, hein. Il dit que c'est une immense richesse. Vous sentez la joie de l'auteur d'avoir une boussole pour sa vie, de ne pas être perdu pour prendre des décisions, pour vivre une vie qui vaut la peine, qui plaît Dieu. Il le trouve une immense richesse. Je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Je suis ravi de suivre tes directives. Je n'oublierai pas ta parole. La joie. J'ai hâte de découvrir le résultat du sondage, pas vous? Alors, on a eu 35 personnes qui ont répondu à ce petit sondage qu'on a distribué. La première question, c'était en dehors des rencontres à l'église. Je lis un passage de la Bible. Donc, des 35 personnes, 22 ont dit, sauf exception, tous les jours. Ça fait 62%. Je viens de calculer. Non, ils ont calculé. 6 ont dit qu'à peu près 3 fois par semaine. Ça fait 17%. 2, environ 4 fois par mois. 5%. Et 5 personnes ont écrit presque jamais. Ça fait 14%. Et la deuxième question, quand je lis la Bible, cela me renouvelle et m'inspire. 30 personnes ont répondu la plupart du temps. Ça fait 30 des 35, ça fait 85%. 4 personnes ont dit parfois et une personne a dit presque jamais. Merci pour votre honnêteté. Je suis très encouragé par le résultat de ce sondage. En tout cas, j'espère que la surexcitation de l'auteur de ce psaume pour la Bible vous encourage aussi à faire de la lecture de la Bible une pratique régulière. Et j'aimerais, pour terminer, reprendre les conseils de Daniel Glore qu'il a donné la semaine dernière. Mais au tout début, j'ajoute un conseil qu'il a oublié et j'imagine qu'il le fait. C'est pas spirituel, c'est très humain, mais pour prendre un temps pour lire la Bible, je vous conseille de prendre un café au lait. Oui, donc une tasse de café, une tasse de thé pour prendre un moment avec Dieu. Moi, je le fais ça. Aujourd'hui, c'était plutôt un thé. C'est comme si je prends un café avec un bon ami, s'asseoir avec un bon ami pour parler avec lui. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose que je fais le matin. Et mes conseils sont comme ceux de Daniel. Lire un petit passage chaque jour. C'est pas nécessaire de lire une page en entier de la Bible. Vous allez probablement pas garder la Bible, la page entière pour la semaine. Mais lis un petit peu chaque jour dans la séquence du livre. Par exemple, dans Marc, les histoires de Jésus sont très courtes. Donc, on peut lire 2 ou 3 petites histoires de Marc. Et puis, c'est suffisant pour cette journée-là. C'est la nourriture qu'on a besoin pour cette journée. La deuxième chose, c'est s'arrêter pour méditer sur ce passage. Oui, on médite aussi dans la religion chrétienne. C'est pas comme une méditation bouddhiste pour vider l'esprit de tout et ne penser à rien, penser au néant. C'est au contraire vider de toutes les préoccupations de la journée pour penser à Dieu, ce qu'il veut nous dire au travers de la Bible. C'est très différent et je crois que ça apporte beaucoup plus. C'est méditer sur un passage, c'est d'abord penser qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus à ce moment-là. Qu'est-ce que ça voulait dire pour le malade? Qu'est-ce que ça voulait dire pour la famille du malade? Qu'est-ce que ça voulait dire pour le religieux qui était là et qui vivait à cette époque de Jésus? Et une fois qu'on a réfléchi à qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, d'abord, ensuite, on peut dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant, aujourd'hui, en 2022? Qu'est-ce que Dieu veut me parler au travers de cette histoire? La troisième chose, c'est répondre. On utilise notre intelligence, mais ce n'est pas un exercice intellectuel, simplement. Lire la Bible, c'est une relation avec Dieu. C'est ça. Donc, on lui répond. On lui dit ce que ce passage nous fait ressentir. On lui parle sur notre peur. On lui demande pardon si on a la tendance à agir plus comme les religieux que comme Jésus. On lui demande pardon par notre manque d'amour. On lui dit qu'on veut ressembler plus à Jésus dans ce domaine spécifique. Et que la même chose que Jésus a fait avec le malade, on veut qu'il fasse dans notre vie aussi. Le psalmiste, il faisait ça. Il a écrit dans la continuation. Voilà. Je t'ai dit tout ce que j'ai fait et tu m'as répondu. Apprends-moi ce que tu veux. La tristesse fait couler mes larmes. Donc, il disait aussi ses soucis, ses tristesses. La tristesse fait couler mes larmes. Relève-moi comme tu l'as promis. Il répondait à ce que la Bible disait. Et donc, le dernier, c'est pratiquer. C'est pratiquer ce qu'on comprend que Dieu nous demande au travers de ce passage. Jésus a dit que lire la Bible sans la pratiquer, c'était comme construire une maison sur du sable. Ça n'a aucune utilité parce que lorsqu'un petit vent vient ou une petite pluie, ça va s'écrouler. Donc si on lit la Bible et on ne pratique pas, on peut avoir l'impression qu'on grandit dans la relation avec Dieu, mais ce n'est pas vrai, c'est que du vide. Et quand les difficultés vont venir, on va vite abandonner cette relation si précieuse qu'on peut avoir avec Dieu. La ferme détermination d'appliquer ce qu'il a compris motivait ce psalmiste. Il a affirmé comme ça. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Vous voyez cette détermination? Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. La dernière prédication sur imparfait, j'ai partagé sur un ami qui a été déterminant pour ma vie de foi. Et je me rappelle quand il s'est converti, il s'appelait Juninho. Quand il s'est converti, quand il s'est donné à Jésus, il avait reçu une invitation pour venir à un camp. Et puis là, il a donné sa vie à Jésus. Sa vie a changé drastiquement, vraiment. Il a cette volonté de se conformer à ce que Dieu voulait pour sa vie, c'était étonnant. Et ce qui m'a touché, c'était la joie et l'amour qu'il avait pour la Bible. Il nettoyait un salon de coiffure, c'était ça son travail à cette époque. Il prenait sa Bible tout partout et il disait, Thierry, même dans les toilettes, je les prends pour pouvoir lire un petit bout. Il disait, je profite de mes pauses et de mes moments où je dois aller aux toilettes pour lire un petit peu de la Bible. Il avait cette joie énorme. Et j'aimerais prier ce matin pour cette même joie pour nous alors. J'aimerais prier pour moi-même, pour les chrétiens de longue date, pour ceux qui n'ont encore jamais lu la Bible sérieusement. Je veux que cette profonde envie de connaître Dieu nous envahisse. Que chaque jour, quand on s'assoit avec notre café pour parler à lui, on puisse avoir la même prière que ce psalmiste qui a dit « Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. » Je veux appeler le YEP ici parce que c'est eux qui vont s'engager à la lecture de la Bible pendant cette année. On va prier pour eux spécialement avec le CDP.